Les adultes, notamment, ont commencé à avouer lire la bande dessinée. Ils la lisaient déjà, mais ils l'ont avoué. C'est entré dans les mœurs.
Cette maison d'édition a une devise. Du travail, c'est bien. Du travail sérieux, c'est mieux.
Nous nous occupons de créer des structures nouvelles. Nous laissons les écrivains en faire des chefs-d'œuvre ou des navets.
Si le gag n'apparaît qu'en fin d'exécution, alors là, c'est un vrai plaisir.
C'est vous dire que l'histoire sera simple, mais qu'elle ne va pas être facile à inventer.
Par la bande. Épisode 8, le garage hermétique de Jerry Cornelius, de Moebius. Cette histoire, le garage hermétique de Jerry Cornelius, n'aurait jamais dû exister. Au départ, Moebius dessine deux pages, comme ça, pour se délasser de ses autres travaux. S'il inscrit bien un titre et précise qu'il s'agit bien là d'un premier épisode, auquel il donne un titre également, Dangereuse Révision, il n'a cependant pas l'intention d'en faire une suite. Le titre lui-même, un rien énigmatique, est une façon de faire barrage à un possible récit. Un objet hermétique, c'est-à-dire impénétrable et même incompréhensible, qui se trouve être un garage, ou peut s'entendre l'expression « voie de garage », laisse peu augurer que puisse émerger ici un sens que l'on pourrait saisir et déployer. Jean-Pierre Dionnet, alors rédacteur de Métal Hurlant, décide, sans rien dire à personne, de publier ces deux planches. Mis devant le fait accompli, Moebius se sent obligé d'imaginer une suite, puisque ce qui vient d'être publié ressemble quand même à l'amorce d'un récit. Il relève donc le défi et décide de publier au moins deux planches dans chaque numéro de Métal à venir. L'aventure dure 3 ans, de 76 à 79, du numéro 6 de Métal Hurlant au numéro 41. C'est donc dans l'improvisation la plus totale que travaille Moebius. Il n'a aucun scénario et ne sait jamais vraiment où il va, ni ce qu'il va dessiner d'un mois sur l'autre. Bien sûr, au fur et à mesure que le récit avance, Moebius s'appuie sur ce qu'il a déjà fait. Mais, dit-il, chaque fois que la tentation me prenait de durcir la ligne de l'histoire et qu'un but se profilait, je cassais tout et je repartais à l'aventure. Au bout du compte, l'histoire que raconte le garage est des plus singulières et ne ressemble alors à aucune autre. Dans l'éditorial du numéro 4 de Métal Hurlant, Moebius écrivait « Il n'y a aucune raison pour qu'une histoire soit comme une maison, avec une porte pour entrer, des fenêtres pour regarder les arbres et une cheminée pour la fumée. On peut très bien imaginer une histoire en forme d'éléphant, de champs de blé ou de flammes d'allumettes soufrées. Ce qu'il y a d'assez étonnant dans ce récit, c'est qu'on y est à la fois perdu et guidé. Tout un réseau de signes et de symboles, combinés à des jeux d'écho de formes et de situations, se mettent en place au fur et à mesure que le garage s'invente. Moebius improvise ainsi une trame dans laquelle s'inscrivent les actions et d'où une intrigue émerge et se déploie. Les choses commencent de façon anodine. L'ingénieur Barnier, on apprendra son nom au deuxième épisode, est en train de réviser une mystérieuse machine de conception révolutionnaire appelée Câbleur. Mais les choses ne se passent pas comme prévu, et la machine est détruite. Barnier, craignant la colère de Jerry Cornelius, décide de s'enfuir. Ce qu'énonce d'ailleurs très bien le résumé du deuxième épisode, l'ingénieur Barnier est très ennuyé, car son câbleur a grillé. C'est au troisième épisode que nous ferons la connaissance du personnage principal de cette histoire, le Major Gruber. Les lecteurs de Moebius connaissent déjà Gruber, Moebius l'ayant déjà utilisé auparavant dans quelques courtes histoires. Il est vêtu comme un explorateur du début du XXe siècle et porte un casque colonial à pointe. C'est alors un personnage pas toujours très sympathique et parfois ridicule. Dans le garage hermétique, il prend la dimension d'un personnage légendaire et accède au statut de démiurge. De fait, le garage est un monde complexe sur trois niveaux que le Major a créé à partir d'un astéroïde stérile. Ce monde, d'une part, Jerry Cornelius veut s'en emparer, pendant que, d'autre part, ses habitants cherchent à s'émanciper de la tutelle de leur créateur, Gruber. En orbite stationnaire de l'astéroïde se trouve le vaisseau spatial du Major, le Siguri. Il surveille, contrôle et observe l'activité du garage. Gruber explorateur, Gruber démiurge, c'est un peu le double fictionnel de l'auteur. Il explore le garage au fur et à mesure que Moebius l'invente. Avec cette différence que le Major connaît le garage, puisqu'il l'a créé, alors que Moebius ne le découvre, mois après mois, qu'après l'avoir dessiné. Gruber, en parcourant le garage, permet à Moebius d'explorer ses rêves et ses capacités graphiques, ce qu'il ne peut faire quand il est Jean Giraud, le dessinateur de Blueberry. À ce propos, Moebius déclare « Jean Giraud, c'est mon côté cartésien, appliqué, perfectionniste. » Moebius, c'est un solo de jazz, l'improvisation totale, la liberté de dessiner une case sans savoir ce qui va suivre. Giraud a besoin d'un cadre. Moebius travaille la main dans la main avec son inconscient. Le résultat, au final, est un récit à la fois éclaté et cohérent. Il est comme un rêve éveillé, il se développe en un désordre contrôlé, semble parfois partir un peu dans tous les sens et sujet à des digressions pour finalement aboutir à un retour à la réalité, ou plutôt une échappée dans la réalité. Dans la dernière page, le Major, en fuite, pour semer ses poursuivants, ouvre une porte et se retrouve sur le quai de la station de métro Opéra à Paris. C'est aussi un récit qui n'est pas sans ironie ni détachement. Il maintient en général le lecteur à distance, ne serait-ce que par la répétition fréquente du titre intégré à la mise en page et la présence sur cette même page d'un résumé des épisodes précédents, parfois des plus loufoques. Graphiquement, le garage fonctionne pour Moebius comme un laboratoire. Sa apparition régulière sous forme de courtes séquences quasi autonomes lui permet d'expérimenter diverses approches graphiques, pouvant aller du dessin simple au très rapide proche du croquis, à des représentations soignées et très fouillées. Elle lui permet également de s'essayer à des mises en page variées, tantôt denses, tantôt très aérées. L'univers découvert dans le garage ne cessera d'habiter Moebius, car non seulement elle deviendra la matrice de la plupart de ses travaux ultérieurs, mais il y reviendra à deux reprises. Une première fois avec l'homme du Siguri en 1995, et une seconde fois avec le chasseur des primes en 2012, peu de temps avant sa mort. Voilà, dans l'épisode 9, je vous parlerai d'un livre d'Edward Gorey, Les Enfants Fichus.
Les adultes, notamment, ont commencé à avouer lire la bande dessinée. Ils la lisaient déjà, mais ils l'ont avoué. C'est entré dans les mœurs.
Cette maison d'édition a une devise. Du travail, c'est bien. Du travail sérieux, c'est mieux.
Nous nous occupons de créer des structures nouvelles. Nous laissons les écrivains en faire des chefs-d'œuvre ou des navets.
Si le gag n'apparaît qu'en fin d'exécution, alors là, c'est un vrai plaisir.
C'est vous dire que l'histoire sera simple, mais qu'elle ne va pas être facile à inventer.